Oh, mais que se passe-t-il?
Mais que se passe-t-il?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe?
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein? Par exemple, bon, il y en a plein, hein? Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile, en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue de nouveau sur les nouvelles du monde pour cette année 2026. On espère que cet hiver, enfin froid, vous aura apporté un petit peu de baume au cœur. Et puis bah nous on se souhaite le meilleur, en tout cas le moins pire, du courage. On reste ensemble, surtout on ne baisse pas les bras et on continuera. Bah, on essaie en tout cas de faire tourner cette petite radio associative bien sympathique qu'est Radio Escapade. Voilà, c'est tout ce qu'on peut se demander comme cadeau de Noël. Et bien justement, on va rattaquer l'année avec un petit récap, hein. Ça m'a fait du bien de prendre des congés, j'ai raté un coup d'état, des inondations, du grand froid. Donc on va faire un petit tour déjà sur l'actualité un petit peu gouvernementale et les mobilisations syndicales et citoyennes en cours, notamment la révolte des agriculteurs, et puis aussi la grève des médecins qui a débuté depuis hier. Quelques mises à jour donc pour commencer sur le plan de la contestation agricole qui n'a pas fait la trêve de Noël, des départs de convois pour Paris, un rassemblement devant des préfectures, des contrôles sauvages de marchandises. Les actions des agriculteurs diffèrent aujourd'hui selon les syndicats, dont deux seront reçues à Matignon en fin d'après-midi aujourd'hui. Dans ces deux syndicats, on peut citer la FNSEA, très puissante, avec même une oreille très compatissante du ministre de l'Agriculture et la Confédération paysanne. Pour ce qui est du gouvernement, les annonces ont jusque-là été jugées donc insuffisantes par la profession pour répondre aux multiples crises auxquelles les agriculteurs font face. La fameuse DNC, hein, cette épizoote aussi de dermatose nodulaire contagieuse pour les bovins, mais on peut parler aussi des faibles cours du blé ou du prix élevé des engrais, avec le tout sous la menace d'une concurrence accrue des pays latino-américains avec l'accord du Mercosur. Le gouvernement avait promis ces derniers jours un arrêté pour empêcher d'importer en France des produits agricoles sud-américains, par exemple les avocats, les goyaves, les mangues, mais aussi des cerises et des melons. Donc ces produits qui seraient traités avec des substances chimiques interdites dans l'Union européenne, puisque c'est sur ce terrain-là précisément que la compétition est jugé déloyal par les agriculteurs français et européens. Cet arrêté qui est attendu aujourd'hui ne figurait pas ce matin au journal officiel et le ministère de l'Agriculture n'avait pas répondu aux questions de l'AFP. L'AFP qui nous livre le petit bilan là que je vous partage au micro. La perspective donc que l'accord de libre-échange entre l'Europe et le Mercosur soit signé dans les prochains jours, comme le souhaite la Commission européenne, c'est un chiffon rouge. C'est ce que dit Arnaud Rousseau, de nature à entraîner des mobilisations plus importantes. Mais à ce stade-là, dit-il, nous appelons à des actions en territoire. Même son de cloche chez ses alliés des jeunes agriculteurs, hein, puisqu'on est du côté de la FNSEA, là, qui étaient reçus ce lundi à Matignon. Eux ont promis un rassemblement le 19 janvier devant le Parlement européen à Strasbourg en cas de signature de l'accord. Le ton monte plutôt du côté de la coordination rurale, la CR, qui est le deuxième syndicat agricole habitué des opérations coup de poing. C'est monté d'un cran hier d'ailleurs à la sortie de Matignon. Le président de la coordination rurale, Bertrand Vanteau, s'est insurgé contre l'interdiction par arrêté préfectoral pour beaucoup de communes de France des convois de tracteurs que justement la coordination rurale prévoyait d'envoyer à Paris monter pour porter pacifiquement les doléances des agriculteurs. Il a maintenu son appel à monter sur la capitale et donc la coordination espère l'arrivée de ces cortèges à compter de ce jeudi. Mais avec ces arrêtés, donc risque d'y avoir des barrages de police sur la route. On verra comment tout cela se gérera sur place. Des agriculteurs de Corse, eux, par contre, ont pu débarquer du ferry, a indiqué le syndicat ce matin. Des convois sont déjà en route depuis la Dordogne, les Landes, la Gironde ou le Lot et Garonne. Plus d'une trentaine d'agriculteurs d'ailleurs de la coordination rurale du Lot-et-Garonne et une poignée de tracteurs étaient réunis à Cancon avant de partir en direction de Paris. Donc, ces agriculteurs savent qu'ils seront sûrement bloqués, mais tant pis, ils essaieront de passer en force. C'est par exemple ce que déclarait le président de la coordination rurale du 47, José Pérez. Le président de la CR assume ne vouloir rien lâcher, notamment au sujet des abattages de l'intégralité d'un foyer de dermatose nodulaire, à partir du moment où un cas y est détecté. Et à noter que là, deux nouveaux cas viennent d'être recensés en Ariège, c'était la semaine dernière, et ce, malgré justement une vaccination presque totale du département. En effet, il y a des délais d'immunité qui met plusieurs semaines à se construire, qui n'empêchent donc pas entre-temps les contaminations, puisqu'on ne peut pas empêcher les moustiques ou autres de se déplacer. La fin de l'abattage total, c'est d'ailleurs aussi une demande de l'autre côté de l'échiquier politique, on va dire, de la part de la Confédération paysanne, qui a été reçue hier à 19h à Matignon et qui a été donc avec la coordination rurale dans le sud-ouest et aussi en Occitanie, un moteur de la contestation. Hein. On les a vus côte à côte sur des blocages, ce qui était un peu nouveau, en tout cas vu les différences d'opinion politique sur pas mal de sujets. Cette contestation a été ravivée début décembre, vous le savez, par la gestion de la crise sanitaire par l'État. Plusieurs routes ont été bloquées hier avec des tracteurs, ceux donc malgré des interdictions de déplacement d'engins agricoles qui sont déjà en vigueur dans certaines régions. Ce matin, la gendarmerie dénombrait encore au moins 5 blocages d'autoroutes. On peut citer la 75, la 64, la 51N dans la zone sud, la 65 pardon, pour le sud-ouest et la 84 dans l'ouest de la France. Plusieurs agriculteurs avaient d'ailleurs fait part à l'AFP de leur intention de passer la nuit sur ces barrages. À Calais, par exemple, des tracteurs et des agriculteurs avaient installé un barrage filtrant pour contrôler des marchandises qui sortaient du port, le tout pour attirer l'attention sur encore les distorsions de concurrence, selon eux, entre les produits importés et les produits européens. On continue avec le cas de la médecine, qui est un petit peu sous les radars médiatiques en ce moment, avec ce mouvement de contestation de la part notamment des médecins libéraux. Les médecins de ville et de clinique débutaient donc hier, lundi 5 janvier, un mouvement de grève qui s'annonce très suivi. Le tout pour dénoncer le budget insuffisant de la sécurité sociale pour 2026, un budget qui vient d'être voté, et ils veulent ainsi exprimer leur crainte de la remise en question de leur liberté d'exercice. Voici quelques témoignages et explications que j'ai pu piocher entre le Midi Libre et le journal Ouest France. Donc les médecins libéraux, je vous le disais, sont appelés à la grève par l'ensemble des syndicats de la profession, ce qui est assez aussi historique comme mobilisation. Ils dénoncent des mesures contenues dans le projet de budget de la Sécurité sociale, comme la pression exercée sur eux pour, par exemple, qu'ils alimentent et utilisent le DMP. C'est le dossier médical partagé, c'est un outil numérique, un carnet de santé numérique exactement, qui peine à trouver sa vitesse de croisière. Et donc, c'est une amende possible qui les attend s'ils ne l'utilisent pas, une amende de 10 000 euros. C'est une avance qui avait été faite par le gouvernement, une aberration par exemple pour le docteur Luc Duquesnel, un médecin généraliste de la Mayenne, président national du syndicat des généralistes, le SMF. Pardon. Il explique tout d'abord qu'il y a plein de médecins qui n'y sont pour rien s'ils n'utilisent pas ce fameux DMP, puisque c'est leur logiciel métier, donc le logiciel qui est employé dans leur cabinet, qui ne leur permet pas de mettre les documents dans le DMP. Et en deuxième, dit-il, aujourd'hui, ce fameux DMP, quand il y a 3 documents dedans, c'est facile de les retrouver. Mais quand on a des patients atteints de pathologies chroniques, qui ont 40, 50, 80 documents à l'intérieur, ça serait comme une armoire où on poserait tous les dossiers sans les ranger. Et donc, on ne peut rien y retrouver. Donc, pour travailler, visiblement, c'est pas du tout bien foutu. Donc, il explique ne pas être du tout contre le DMP, mais que les sanctions financières prévues sont scandaleuses. Bon, a priori, hier, la ministre de la Santé, Stéphanie Rist, a écarté la possibilité de ces sanctions si le DMP n'était pas alimenté, mais il y a quand même une pression là-dessus. Et la colère persiste contre le durcissement des contrôles à ce sujet, et aussi des contrôles qui visent les médecins par rapport aux arrêts maladie qu'ils vont prescrire, des prescriptions et des transports sanitaires auxquels ils ont souvent recours. L'autre mesure déplorée par les médecins, c'est donc en effet cette limitation des arrêts de travail prescrits, et avec notamment une possibilité de sanctionner les médecins qui prescriraient trop d'arrêts de travail que la moyenne sur le territoire. C'est donc un vrai scandale pour toujours le même docteur là, du syndicat, le docteur Luc Duquesnel. Quand je fais les arrêts, dit-il, c'est parce que mes patients le nécessitent. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de maladies professionnelles et que ce sont des arrêts longs quand vous ne pouvez plus travailler, que vous avez les épaules en vrac par exemple, ou que vous êtes en état de dépression au travail. Et dit-il, on rend donc responsables les médecins. Or, c'est visiblement le monde du travail qui serait à prendre en considération, en tout cas ce qu'on estime être possible de supporter quand on travaille. C'est pour ça, dit-il aussi, que ces journées d'action, cette veillée d'armes de la médecine libérale qui durera donc du 5 au 15 janvier, c'est aussi pour alerter les patients. Bien sûr, les médecins sont victimes parce qu'on ne leur permet pas de travailler comme ils le veulent, mais les premières victimes seront donc bien sûr les patients. Et il explique qu'il sera bientôt obligé de surveiller ses arrêts pour ne pas avoir de sanctions financières. Les médecins sont aussi très remontés contre les mesures envisagées pour lutter contre les déserts médicaux. Ils veulent ainsi préserver la liberté d'installation. Pour ce même médecin, ajouter des contraintes ne va rien régler. Ce serait une injustice alors que les médecins, dit-il, ne sont pas responsables de la situation. Il explique qu'on a diminué énormément le nombre de médecins formés en France. Nous avons une population qui a vieilli, qui a de plus en plus de pathologies chroniques. Et au lieu d'anticiper, les différents gouvernements ont diminué le nombre des médecins, ce qui se paye donc aujourd'hui. Il faut savoir que les médecins libéraux en France s'occupent de 8 consultations médicales sur 10 quand même, 6 actes de chirurgie sur 10, la moitié environ de la radiologie et des endoscopies digestives. Ça fait du monde tout ça. La loi Garot veut donc réguler l'installation des médecins. Et pour lui et les grévistes du jour, elle risque au contraire d'accélérer la désertification médicale. Aujourd'hui, la France entière est un désert de médecins traitants. Paris est un désert en médecins traitants. Il explique qu'à Nantes, capitale de sa région, il y a 20 000 patients sans médecins traitants. Et qu'il n'y a pas de zone donc surdotée en médecins traitants et le métier n'est plus attractif. Les gens aujourd'hui choisissent autre chose. Et il explique que quand ils ont des jeunes en stage, les internes en médecine générale, quand ils voient les conditions dans lesquelles ils seront amenés à travailler, souvent préfèrent rester à l'hôpital. Pour ce qui est de la situation dans le sud, on lisait dans les colonnes du Midi Libre que pour l'Hérault, hier étaient réunis au siège de l'Union régionale des professionnels de santé, donc à Montpellier, des généralistes et spécialistes, qui expliquaient eux aussi les raisons de cette colère alimentée par des mesures de coercition, c'est ainsi qu'ils les voient, inscrites donc dans ce budget Sécurité sociale 2026. La liste des points de crispation est longue. On peut citer aussi l'ONDAM, donc l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, c'est en gros l'enveloppe qui est affectée à la santé, qui a été augmentée de 0,9%. Et ce plus 0,9% ne couvre pas l'inflation, dénoncent les médecins. Donc en termes, moins de moyens. Pour la Bitéroise, Laurence Saffon, qui est pneumologue, les articles de loi de financement de la sécurité sociale menacent les piliers de la relation médecin-patient. Un autre médecin, un chirurgien orthopédique, lui, à la polyclinique Saint-Privat, à Bougins-sur-Liron dans l'Hérault, revient sur la question des compléments d'honoraires dans le viseur du gouvernement, là aussi. Pour lui, ils sont indispensables au fonctionnement des plateaux techniques lourds. Pour tous ces médecins en grève, donc, le projet de budget 2026 met en danger la santé de tous les Français. C'est aussi le médecin, on peut citer Jean-Christophe Calme, qui est aussi dans l'Hérault, président de l'URPS Médecins Libéraux. Il alerte ne pas faire grève pour les revenus des médecins, mais parce que, dit-il, on ne soigne plus les gens correctement. La France était un leader, elle occupe désormais la 11e place européenne pour son système de santé. L'anesthésiste Olivier Attard, lui, pour le syndicat Le Bloc, voit dans ces mesures annoncées la fin de l'indépendance des professions. C'est l'exercice libéral de la médecine qui est attaqué. Et il évoque donc lui aussi l'impact sur les patients, puisque cette indépendance professionnelle, c'est la garantie de l'accès aux soins. Vous avez besoin d'être opéré de l'appendicite des amygdales. Demain, c'est fini, parce que tous ces actes sont réalisés à perte. Pourquoi faire grève? Parce que c'est un truc de dingue, dit-il. Ce qui arrive, vous n'aurez plus de médecins. L'hôpital ne pourra pas récupérer tous nos patients. Voilà, donc tous ces médecins sont appelés à faire grève entre le 5 et le 15 janvier, des dates qui ont été posées après les vacances de Noël. Hein. Mais reste donc que ce mouvement intervient pile alors que le système de santé est particulièrement sollicité hein, avec l'épidémie de grippe qui fait rage et le nombre record des appels au SAMU. L'idée n'est pas donc de garder ces cabinets fermés pendant 10 jours, dit-il, mais de ne plus répondre aux sollicitations de l'administration. Du côté de Montpellier, le CHU, qui a lancé son plan hôpital en tension le 24 décembre, précise que la grève du secteur privé accroît fortement les recours et les passages aux urgences. D'ailleurs, des préfets ont déjà pris des arrêtés de réquisition, reste à voir s'ils vont les activer. L'Agence régionale de santé, elle indique qu'elle pourra y recourir si nécessaire. Et en attendant, l'ARS vous conseille d'appeler un médecin avant tout déplacement. Une grande manifestation est prévue à Paris pour ce samedi 10 janvier. Et du 10 au 14 janvier, ce seront les établissements de santé privés qui devraient rejoindre le mouvement.
Audi, Panem, quid meliora. Ça veut rien dire, mais je trouve que ça boucle bien.
Alors, on va regarder un petit peu où on en est aussi de cette histoire de la saga du budget 2026. Hein, on a parlé de la sécurité sociale qui est à part. Pour ce qui est du plan de financement, le PLF 2026, le mois de janvier, visiblement, sera celui de tous les dangers pour le gouvernement. Fin décembre, donc, les députés n'ont pas réussi à se mettre d'accord concernant le budget de l'État. Une loi spéciale pour lever l'impôt et payer les fonctionnaires a été votée dans l'urgence. Mais le budget de l'année à venir doit tout de même être voté et le texte va donc revenir à l'Assemblée, enfin à la Commission des Finances de l'Assemblée à partir de ce jeudi, le 8 janvier. L'exécutif veut se montrer optimiste avec le ministre de l'Économie, Roland Lescure, qui disait dans les colonnes du Parisien « Pensez avoir un budget voté avant la fin janvier, les conditions sont réunies, dit-il, je sens qu'il y a une volonté d'avancer et d'aboutir de la part des principaux acteurs. » Ça, c'est pas gagné. Les députés, en tout cas, vont repartir de la copie qui a été adoptée au Sénat, à savoir, en gros, un déficit de 5,3% pour le PIB. Donc, il faut le réduire d'au moins de 0,3 points. Ça fait environ 9 milliards d'euros. Mais des points de divergence, des gros points de divergence même restent. Le gouvernement, par exemple, aimerait renforcer l'effort demandé aux collectivités locales. Mais le Parti socialiste, par exemple, s'y oppose. D'autant que l'EPS a prévu que, contrairement au budget de la Sécurité sociale, il ne votera pas le projet de loi de finances. Il réclame des concessions, comme le refus des suppressions de postes dans l'éducation nationale.
Maintenant, il faut nous écouter. Parce que là, on en a gros. On en a gros.
On part avec une petite histoire du côté d'Avignon que j'ai vu passer sur les réseaux, sur le média Contre-Attaque. On y parle du cas d'un nouveau-né, victime d'un déferlement de haine raciste, un petit peu pour illustrer aussi l'entrée de cette année 2026 en France. Il s'appelle Zaïd, il est né dans la ville d'Avignon, et c'est donc le premier bébé 2026 de France. Vous savez, c'est un peu traditionnel, les journaux font ça. Là, c'est le journal La Provence, donc, qui consacrait ce traditionnel article pour présenter le premier bébé né officiellement cette année en France avec la photo du petit. Venu au monde donc à 1h30 du matin le 1er janvier, sa naissance aurait dû être un moment de joie, mais c'était sans compter sur les racistes qui s'affichent maintenant ouvertement au grand jour, notamment dans les sections commentaires des articles de la presse locale. Si vous voulez vous dégoûter un peu de l'humanité, je vous conseille d'aller faire le tour sur n'importe quel article de votre presse locale et vous allez voir, c'est Jojo. Rassurez-vous, ce n'est pas représentatif de la France, mais quand on regarde que ça, ça fait un peu flipper. L'article a à peine été publié, donc dans la Provence, qu'une horde de haineux de tout poil ont déversé un torrent de racisme dans les commentaires. Racisme et islamophobie à vomir, puisque vous l'aurez compris, Zaïd a des parents qui sont issus de l'immigration. Alors certains médias dominants ont parlé de l'abjection de ces commentaires, mais peu ont justement rapporté comment est-ce que l'affaire était remontée, et notamment le fait qu'une plateforme collaborative pour les Maghrébins, qui s'appelle Tajmat, ainsi que la Virmag, qui est la veille d'investigation contre le racisme ciblant les Maghrébins, donc ces deux associations ont fait un travail d'enquête pour retrouver certains donc, de ces lâches du clavier, qui pensent certainement qu'ils ne peuvent pas être démasqués au moment où ils écrivent cela. Ont donc été retrouvés, certains d'entre eux, sur un groupe Telegram, l'application Telegram du néo-nazi Daniel Conversano, une figure un peu dans l'ultra-droite. On peut citer donc parmi les commentateurs Jérôme Judec, le délégué départemental du Pas-de-Calais pour le parti Reconquête, parti d'Éric Zemmour. On peut citer Jérémy Brun, professeur des écoles et animateur d'une chaîne YouTube qui s'appelle Jérémy Ster. Donc pas mal d'influenceurs quand même, qui a liké des commentaires, qui appelaient par exemple à jeter le bébé dans la cheminée. La plateforme Tajmat tire donc la sonnette d'alarme sur la dangerosité d'avoir de telles personnes, par exemple en charge de l'éducation d'enfants. On peut trouver également François Raffin, qui est lui directeur des affaires juridiques à la communauté d'agglomération de Rambouillet Territoire. Donc des gens avec plutôt du pouvoir et de l'auditoire. D'autres personnes ont été identifiées je ne les nomme pas ici, mais du coup sur la plateforme justement ils ont fait ce travail de mise en lumière. Devant la nécessité de riposter contre cette attaque raciste, en tout cas des militants antiracistes ont eux de leur côté réalisé un collage sur Avignon en proclamant « Bienvenue Zaïd, Avignon est ta maison ». Les racistes d'ailleurs mis en cause ont depuis paniqué et supprimé leur compte sur les réseaux sociaux. Par exemple, Jérémy Brun, qui a effacé sa chaîne YouTube avec ses 45 000 abonnés et qui a fait l'objet d'un signalement pour ces derniers, pour certaines de ses publications. Le fameux François Raffin, qui est directeur des affaires juridiques, l'a rembouillé, lui, il a supprimé sa page LinkedIn. Voilà, insulter un bébé, bien au chaud derrière son ordinateur, c'est facile, mais assumer ouvertement d'être un gros fasciste n'était apparemment pas au programme de ses commentateurs. Donc ça peut servir de leçon et donc savoir que faire remonter ces infos-là, parfois ça a quand même quelques... Ça n'annule pas ses actes, mais ça permet un petit peu de montrer qu'il n'y a pas d'impunité. En tout cas, on peut voir que le racisme est tellement décomplexé chez certains de nos politiques et dans la police que sans le travail justement d'associations, eh ben, ils n'auraient jamais eu à subir les conséquences de leurs actes.
C'est un mot tout anti-fasciste.
Un fasciste de merde ! Un fasciste de merde !
C'est un mot tout anti-fasciste.
Allez, on part un petit peu du côté du climat avec les chiffres de l'année 2025 qui commencent à tomber. Elle pourrait bien être la troisième année la plus chaude jamais mesurée à l'échelle mondiale. Donc après 2024 et 2023, on est sur un joli petit crescendo là, comme prévu d'ailleurs. C'est une analyse de l'AFP qui devrait être confirmée hein, au cours du bilan annuel de Copernicus, l'observatoire européen météo qui devrait arriver bientôt. L'AFP a analysé donc de manière indépendante des milliards de données depuis des satellites, des modèles climatiques ou des stations météo sur l'ensemble de la planète et ce depuis 1970. Le résultat, 120 records mensuels de température battus en 2025 et sur plus de 70 pays de la planète. Avec ces chiffres, on peut donc donner par exemple cette statistique, les épisodes d'extrême chaleur sont devenus presque 10 fois plus probables. Certaines régions, malheureusement, en font d'ailleurs plus les frais que d'autres, plutôt les chauds. Par exemple, en Asie centrale, tous les pays sont proches des records annuels. On peut citer un cas extrême au Tadjikistan, les températures ont dépassé de plus de 3 degrés Celsius les normales saisonnières. En Afrique de l'Ouest et au Sahel, donc Mali, Niger, Nigeria, Burkina Faso, Tchad, les températures ont été au-dessus entre 0,7 et 1,5 degrés Celsius au moyenne, qui sont déjà assez élevées dans cette région. Le Nigeria a connu son année la plus chaude jamais observée. Pour l'Europe, c'est l'Espagne, le Portugal et le Royaume-Uni qui ont eu un été le plus chaud depuis jamais, avec aussi des incendies majeurs dans la péninsule ibérique et une pénurie d'eau au Royaume-Uni suite à un printemps sec, le plus sec depuis plus d'un siècle. En Europe du Nord, on a aussi connu par exemple un automne anormalement chaud, avec 2025 qui se classe donc parmi les deux années les plus chaudes jamais observées pour la Norvège, pour la Suède, la Finlande et l'Islande.
Non mais n'importe quoi, non mais...
Et pendant ce temps, en Bretagne, dans un arrêté qui était publié au journal officiel, c'était au courant décembre, le mercredi 10 décembre, l'État a octroyé des permis d'exploration des sous-sols pour de la recherche minière. C'est donc des permis qui ont été donnés à la société Braze Ressources. Celle-ci va donc pouvoir analyser les sous-sols de plusieurs communes dans le Morbihan, l'Ille-et-Vilaine, la Loire-Atlantique et le Maine-et-Loire. Un projet très controversé porté par cette société, donc Braze Ressources. Depuis 2023, elle demandait l'autorisation d'explorer des sous-sols autour de plusieurs communes dans le Morbihan, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, je vous le disais, et l'Ille-et-Vilaine, pour trouver et chercher des minerais et des terres rares. Le gouvernement a pris cet arrêté donc il y a une semaine, publié un arrêté le mercredi 10 décembre qui octroie 3 permis d'exploration à la société Lorientaise qui est elle-même filiale d'un groupe canadien. On peut parler du projet Taranis qui concerne 20 communes à la frontière du Morbihan, l'Ille-et-Vilaine et la Loire-Atlantique. Le deuxième s'appelle Epona, il se déploie sur 4 communes du côté de l'Orient. Et le troisième projet, Bélénos, avec des petits noms bretons pour que ça passe bien, lui va se concentrer sur 18 communes entre la Loire-Atlantique et le Maine-et-Loire. Avec tous ces permis de prospection, Braze Ressources a l'autorisation d'entreprendre un travail d'exploration encadré par l'État pour identifier et évaluer la présence de plus de 20 métaux stratégiques et rares dont les principaux sont l'antimoine, l'argent, le cuivre, l'étain, le germanium, l'indium, l'or, le tungstène, le plomb et le zinc. Voilà, des petits métaux qui, vous le savez sûrement, servent notamment à fabriquer pas mal de nos nouvelles technologies. Smartphones en tête. Depuis le début de ce projet, qui avait été révélé au grand jour fin 2023, les associations environnementales locales sont vent debout. Les habitants vont être touchés à perpétuité, et j'emploie sciemment ce mot. C'est par exemple ce que dit Dominique Williams, adhérente à Eaux et Rivières de Bretagne. On connaît, dit-elle, des mines exploitées à l'époque carolingienne, donc de Charlemagne. Eh bien, depuis cette période, explique-t-elle, la pollution est toujours présente et continue d'impacter le territoire. Les associations opposées donc envisagent de poser un recours au tribunal administratif. Ils ont jusqu'au 3 février 2026. Et c'est ce qu'ils vont faire, donc annonce le porte-parole du collectif Stop Taranis, Robin Rabas, qui est un des 21 présidents d'une association collégiale qu'ils ont nommée, puisqu'on reste en Bretagne dans l'esprit d'Astérix, Tous Unix. C'est un véritable point de bascule. Certains sont sidérés, amers et en colère, mais il y a encore beaucoup d'interrogations du côté des habitants. Ces projets d'exploration paraissaient irréels et aujourd'hui, cela paraît très concret. Voilà, et ce sont donc des habitants de là-bas que j'ai croisés pendant les vacances qui m'en ont soufflé un mot. Donc voilà, l'information, on l'a fait circuler entre nos petites régions.
Oh, les rebolles, tout ça, mais c'était que vraiment la fin.
Bon, on va pas se quitter que sur des mauvaises nouvelles, même si c'est un peu dur, mais on va voir un petit peu ce qu'on peut se faire. Et je vous invite donc à aller voir en images aussi et en long ce reportage publié dans les colonnes du journal Reporter. Il se passe à Marseille, enfin plus précisément à l'Estaque, dans les quartiers nord de Marseille, qu'ont subi de graves incendies cet été 2025, en juillet. C'est une école du feu contre les incendies dont il est question, à savoir un groupe d'habitants qui s'organise donc au sein de cette école du feu. L'initiative vise à faire connaître les bons gestes avant et pendant le sinistre, donc l'incendie. La plupart des membres de ce groupe habitent sur les flancs des collines de l'Estaque, face à la mer. Ils ont vu leurs habitations consumées. C'était donc pour rompre avec le traumatisme et la sidération qu'ils et elles ont décidé de participer à cette promenade, cette initiative entre lecture de paysages et discussion, puisqu'ils vont donc voir les lieux de l'incendie, se réapproprier un savoir sur les incendies et l'environnement pour mieux nous protéger. C'est un petit peu le but affiché de ce projet qui a été initié par Julie Demuère, qui habite elle-même à l'Estaque et qui est cofondatrice du Bureau des guides du GR 2013. C'est une association qui organise des balades urbaines dans les communes de cette métropole, des randos pour aller voir aussi le patrimoine industriel. Suite à cet incendie, donc un groupe de travail avait été mis en place sur l'Estaque au sein du collectif de l'incendie du 8 juillet, un groupe formé dans l'urgence pour pouvoir s'entraider au lendemain de la catastrophe et comprendre mieux ce qui s'est passé, puisqu'il y a eu pas mal de manquements, en tout cas de ce qu'on aurait pu espérer de la part des pouvoirs publics et des pompiers. En effet, ce 8 juillet, de longues heures se sont écoulées sans que les habitants de l'Estaque ne voient débarquer les habituels camions rouges. La situation a provoqué colère et incompréhension, mais aussi une prise de conscience, puisqu'en effet, une partie des pompiers était déjà occupée sur un autre feu pas loin. On délègue entièrement la protection de notre maison aux pompiers, mais nous avons cette fois pris conscience que ça ne marche pas toujours. L'école du feu me mène à sortir de la passivité, à assurer mon auto-protection, explique ainsi une des victimes qui est participant à cette sortie organisée, qui était la troisième déjà sous ce titre de l'école du feu. Dans les participants et dans les intervenants, il y a un paysagiste de 36 ans qui s'appelle Jordan Joupac. Il intervient, lui, dans le cadre de ce projet de recherche-action mené par l'École du Feu. Il explique que dans ces collines, surplombant Marseille, les feux sont d'autant plus redoutables que la végétation est composée de pins d'Alep, des essences particulièrement inflammables qui apprécient les sols profonds et épais, comme ici. Un habitant du quartier propose alors, est-ce qu'il ne serait pas possible de faire de l'agriculture pour diversifier la végétation? Pourquoi ne pas y planter des oliviers ou des vignes? D'autres parlent du pastoralisme et du jardinage comme des pistes à envisager sur le temps long pour recréer des usages de la nature qui permettraient donc aux vivants de mieux résister au passage des flammes. Tout au long de cet après-midi, donc des actions immédiatement applicables ont été présentées. Évidemment, rappeler l'obligation légale de débroussaillement autour de 50 mètres des habitations. Le paysagiste a aussi expliqué, ils sont allés voir une maison qui, elle, avait résisté au feu au sommet de la colline, pourtant. Et donc au dernier passage du feu, la maison a tenu, elle est donc prise comme exemple, et c'est vraiment des petites choses concrètes, hein, savoir la matière de laquelle sont faites les volets, le PVC des fenêtres, la matière des tuyaux d'arrosage, les vulnérabilités ou forces du bâti de la maison, tout ça est détaillé. Et bah, ça intéresse, donc c'est du concret hein, qui intéresse beaucoup des participants à cette école, qui sont eux aussi souvent propriétaires dans le même vallon. Le Jordan, le paysagiste, explique « L'autoprotection se pense en dehors du temps de la catastrophe. Lorsqu'elle survient, si vous avez réalisé tous les aménagements autour de chez vous, le feu perd en intensité lorsqu'il se rapproche des habitations et ne fait que passer. Si vous avez des pompes à eau, des citernes et que vous êtes organisé en collectif, la défense de votre quartier peut presque se passer de pompiers qui pourront, eux, donc se concentrer sur la protection des massifs forestiers. » Cette initiative, l'École du Feu n'a pas l'ambition de se substituer à l'action des services de la sécurité civile, mais de s'inscrire dans une complémentarité nécessaire à l'adaptation aux conséquences du chaos climatique. Dans ces modélisations, on rappelle que l'INRAE, un institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, prévoit que d'ici 2050, le nombre des grands feux passera de 7 à 10 par an en France. Et en parallèle, la saison des incendies, elle, s'allonge. Leur intensité augmente et ils touchent de plus en plus de territoires jusqu'ici épargnés. Ce phénomène va donc induire mécaniquement une dispersion des moyens humains et matériels, alors d'ailleurs que la doctrine française de lutte contre le feu repose sur une attaque massive et directe des foyers naissants. Or, les pompiers ne vont pas pouvoir défendre tout le territoire national, hein, expliquait l'intervenant, surtout si les moyens n'y sont pas mis. Voilà, donc plutôt que la résilience, choisissons l'autogestion. Allez, on laissera le mot de la fin à 12 Kawa, un rappeur qui a dit justement son dernier mot ce lundi 29 décembre. Il s'est éteint à peine âgé d'une quarantaine d'années et jeune père. 12 Kawa était réputé pour savoir manier les mots et les punchlines sur des airs de jazz ou de musique d'Europe de l'Est, véhiculant son spleen poétique et underground qui dénotait un peu dans le milieu du rap français, une belle plume qui s'en est allée. On s'écoute donc sur les notes de Passion Triste avec une prod de DJ Huggy. Je vous donne rendez-vous jeudi pour d'autres nouvelles du monde.
C'est quoi qu'on tise ? Passe-moi ton spliff. La pression de la société a engendré des passions tristes. Dans l'anonymat des mégapoles, on se demande pas pourquoi les gars collent des IF, pourquoi picolent les IF. C'est pas ce qu'agent, c'est pas si drôle ici. Les gens qui s'aiment s'ignorent et gros c'est mort. On n'écoute plus vos conseils, mais le requiem des rossignols. Le capitalisme a tout détruit, uniformisé les boutiques. On se croit libre et différent, consommant de la pensée unique. Des murmures de vie morcelés, pour s'amuser c'est que morceaux. Et je vois un miroir que dans le regard, les statues du musée d'Orsay. Dans nos poumons c'est Tchernobyl, et dans nos têtes c'est Fessenheim. Je donne pas trop cher de nos vies, de toute façon j'ai plus un flèche sur moi. Mais les regrets, pour l'humanité, pas un atome. Parce que d'après le progrès, c'est du porno sur les smartphones. Et il n'y a plus de dialogue, c'est pas l'heure de parler du cœur. Moi je crois qu'il y a plus que le radiologue qui voit nos beautés intérieures. Dans ma tête je revois la scène que ceux qui s'aiment s'égorgent. On tourne les canons d'Avicenne contre les fusils de Tchekhov. Je sais bien ce que les passants disent et lorsqu'ils passent et qu'ils voient qu'on tise. Et tu crois pas si t'as jugé l'autre, ça éloignerait ta hantise. Les sourires sont faciles mais ça se fera pas sans spliff. La pression de la société a engendré des passions tristes. Je sais bien ce que les passants disent et lorsqu'ils passent et qu'ils voient qu'on tise. Et tu crois pas si t'as jugé l'autre, ça éloignerait ta hantise. Les sourires sont faciles mais ça se fera pas sans spliff. La pression de la société a engendré des passions tristes. Des passions tristes. C'est quoi qu'on dise ? Passe-moi ton spliff. La pression de la société a engendré des passions tristes. Nos âmes voudraient un temps pour elles. On prend des fuites intemporelles. C'est impossible de réussir et pourtant on se retente la belle. Mais de toi tu peux pas t'enfuir. Choisir la vie sans contrainte. Tu verras que vivre de loisirs va engendrer d'autres problèmes. Le temps qui passe est un défi qui nous suicide à petits fils. Il met des rides à ceux qu'on aime et fait chuter les seins des filles. La famille n'est plus qu'un concept qu'on qualifie du Moyen-Âge. Juste pour légitimer le fait des enfants brisés qu'on partage. Y'a de l'orage dans le patio comme si passait le golem de Prague. On se dit adieu comme des agneaux que l'on emporte le jour de Pâques. Tu battras pas tes vieux fantômes, au pire tu les gardes à distance. Mais lorsque la fatigue arrive, tu sens s'abaisser tes défenses. T'aimerais bien ranger ton épée, t'endormir au bord de la rive. Mais si t'as pas déclaré la paix, l'armée des manches morts arrive. Sans être moraliste, on meurt aussi près des lagunes. La seule façon de gagner la guerre, ce serait de se dire que c'en est pas une. Je sais bien ce que les passants disent, et lorsqu'ils passent et qu'ils voient qu'on tise. Et tu crois pas si t'as jugé l'autre, ça éloignerait ta hantise. Les sourires sont faciles, mais ça se fera pas sans spliff. La pression de la société a engendré des passions tristes. sais bien ce que les passants disent. Et lorsqu'ils passent et qu'ils voient qu'on tise. Et tu crois pas ce que t'as jugé l'autre, ça éloignerait ta hantise. Les sourires sont faciles, mais ça se fera pas sans spliff. La pression de la société a engendré des passions tristes.
Ouais.
Des passions tristes. C'est quoi qu'on tise, hein? Passe-moi ton spliff.
Tiens.
La pression de la société a engendré des passions tristes. Y'a pas d'ambulance qui puisse où je suis venir me prendre là dans mon monde imaginaire où les petites douleurs sont bruyantes. Mais les grands ne savent que se taire. Je vais peut-être y aller maintenant. Mais dis-moi mon ami, est-ce que j'habite Shutter Island? On se purifiera pas dans le Gange. Quel monde étrange. Au lieu d'esquiver la noyade, on nous a appris le saut de l'ange. Une négation de l'individu, un déni des personnalités. La société crée des souffrances indues dont personne n'a idée. C'est pas pour la santé publique, moi j'ai compris comment ça marche. Ça s'appelle produit illicite lorsque l'État se fait pas de marge. Quel monde de barge, on vole des veaux à leur maman pour prendre le lait de ces dernières afin de le revendre à des gens pour qui ça n'est pas nécessaire. La boîte de Pandore mérite-t-elle que l'on en referme le couvercle? On est des êtres spirituels, mais on est prisonniers d'un cercle. Accepte qui tu es, détache-toi des gens toxiques. Car même si le vide leur remplace pour détruire les passions tristes, faut regarder le vide en face. Et lorsque ce monde te malmène, t'apprends le désamour de toi. N'oublie jamais qu'on est quand même des très belles poussières.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Oh, mais que se passe-t-il ?
Mais que se passe-t-il ?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe ?
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.